Place Info.
Bonsoir, la première journée du procès de Jean-Luc Mélenchon et son image altérée, négative, auprès des Français, selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Emmanuel Macron qui s'explique sur les gilets jaunes dans le magazine Time à l'avant-veille d'un samedi sous haute tension. La mort en exil de l'ancien président tunisien Ben Ali. C'est dans Les Informés avec Géraldine Vosner, journaliste au Point, avec Véronique Relsoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe Ebra, qui regroupe les grands titres régionaux de l'Est de la France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Voilà, résistance, et voilà pour cette ambiance ce matin devant le tribunal de Bobigny, transformé pour deux jours en arène politique. Jean-Luc Mélenchon, au premier jour de cette comparution avec cinq autres prévenus pour rébellion, a soutenu la thèse du procès politique. Nous allons détailler dans un instant notre enquête, Odoxa Dentsu Consulting. Mais tout d'abord, écoutez ce qu'en a dit Danielle Obono, la députée La France Insoumise de Paris. Elle était l'invitée du 1850 France Info.
Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls. Je rappelle qu'il y a eu une tribune qui dénonçait ces pratiques qui ne sont pas juste en France, qui ont lieu dans le monde entier, signée par plus de 200 personnalités sur les 5 continents et qui citait le cas de Jean-Luc Mélenchon parmi d'autres comme un exemple de ce type de pratique qu'on appelle lawfare et qui affaiblit la démocratie en attaquant les oppositions politiques, mais aussi sociales, environnementales, etc. Et on a vu ça en France, depuis les Gilets jaunes jusqu'au procès des décrocheurs. Et ce procès... Alors,
j'entends bien vous, Danielle Obono. Donc, je me tourne vers vous, Géraldine Vosner. Vous avez été longtemps correspondante aux États-Unis. L'offert.
Oui, alors ça c'est la théorie
c'est l'énigme du jour,
théorie qui développe dans son livre, qui paraît fort opportunément le jour même de son procès. Cette théorie qui veut que on instrumentalise la justice pour servir des fins politiques.
Alors pour nuire aux opposants,
pour nuire aux opposants. Alors évidemment, je ne sais pas qui instrumentalise qui aujourd'hui, mais il me semble qu'il n'est pas en reste après le show qu'on a pu observer aujourd'hui.
Gilles Bornstein, procès politique.
Moi, je crois pas. Moi, je ne crois pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, n'a pas le choix parce qu'il a beaucoup perdu dans l'opinion et maintenant il joue avec qui tout double. Donc, il a choisi de remettre de l'argent dans le Nourin pour dire oui, c'est un procès politique. Je pense que pour partie, il est sincère. Il pense vraiment dans sa représentation du monde très politique. Il pense qu'il y a un système qui, pour se survivre,
il est habité par ça. C'est pas une posture.
Il y a un côté personnel. C'est pas un homme de consensus. Il y a des gens qui aiment le consensus. Jean-Luc Mélenchon, il se construit dans l'adversité. Il a besoin d'adversaires permanents. Et je pense qu'il croit pour partie qu'il y a effectivement un système qui, pour se survivre à lui-même, instrumentalise la justice pour ça. J'avais sur un autre plateau une invitée de la France Insoumise, je lui demandais mais comment ça se passe ? Qui appelle qui ? Parce qu'on ne comprend toujours pas. Est-ce qu'il pense que c'est le président de la République ou la garde des Sceaux qui appelle ?
Très bonne question,
et là, il n'arrive pas vraiment à expliquer. Ils disent non, c'est un système. Mais un procès politique, même dans leur logique, une fois qu'ils ont dit que le procureur est sous l'autorité...
C'est quoi, un système induit, c'est ça ? Ça serait automatiquement,
c'est notre conviction. C'est notre conviction, c'est notre intuition. Alors, ils rappellent qu'effectivement, le procureur est sous l'autorité du garde des Sceaux, mais on ne voit pas, même dans leur logique, comment fonctionnerait ce système vertical qui irait du pouvoir.
C'est une vraie question. Parce que personne effectivement n'évoque cette mécanique des choses. Pascal Jalabert, Danielle Obono et les autres insoumis en veulent pour preuve le procès politique, les moyens disproportionnés qui auraient été déployés ce jour-là pour au fond mener les enquêtes.
Oui, ça c'est le procureur qui apprécie et les policiers qui apprécient les moyens pour une perquisition. Mais Jean-Luc Mélenchon, depuis près de 50 ans, il fait de la politique. Donc c'est son ADN, c'est ce qui le fait avancer. Et là, eh bien, une tribune, un tribunal, pour lui, c'est la même chose. Donc il est à la barre, il a fait de la politique. Il a quand même une phrase qui, à mon avis, me paraît un peu gênante, surtout dans l'insoumis. Il a dit à la présidente du tribunal, ou au juge qui était face à lui, « Je ne suis pas un citoyen lambda, je suis un député ». Là, attention, on est quand même sur la séparation des pouvoirs, et que je sache, les juges, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif.
Véronique... Géraldine Wefner, pardonnez-moi.
Non, je pense que là, il joue sur le fait que non, la séparation des pouvoirs en France, elle n'est pas exacte. Le procureur, le parquet, il est nommé sur proposition du pouvoir par décret du président.
Mais
de la
pas
République.
Le juge,
pas le juge, pas le juge. Le parquet représente la société.
Pas le évidemment, pas voilà. Le juge d'instruction, mais ça laisse la porte ouverte au doute. Et je pense
toujours
que
le même, hein,
dans
c'est toujours l'argument récurrent.
Oui,
ça,
mais dans leur esprit, vous disiez, on ne sait pas qui appelle qui. Dans leur esprit, étant donné que les magistrats du parquet doivent leur carrière, le futur de leur carrière au pouvoir, ils vont avoir tendance à chercher lui complaire.
C'est que là, il parlait à un juge, donc là, il peut pas être.
Devant un juge, vous n'êtes alors, un député n'est pas au-dessus d'un citoyen lambda. Je parle bien devant un juge.
Véronique Reilsoult, Pascal Jalabert évoquait les mots de Jean-Luc Mélenchon pendant l'audience. Il a dit autre chose. Hein. Il a revendiqué son caractère quelque peu éruptif. Hein. Ils sont parlé très fort. Alors, il s'est défendu au fond d'aller très loin, d'être allé très loin lors de cette perquisition. Qu'est-ce qu'on disent les réseaux sociaux, cette perquisition dont on a vu la version longue récemment chez Quotidien,
hein. En fait, il y a deux catégories d'internautes. Il y a monsieur et madame tout le monde qui ne suit pas particulièrement la France insoumise. Et globalement, il trouve qu'il est agressif. Il trouve qu'il est plutôt autoritaire. Il le trouve assez seul, d'ailleurs. Et ils le suivent assez seul, oui. Ils trouvent que c'est un homme solitaire et qui part au combat un peu seul. Et puis après, il y a les gens de la France insoumise. Et là, c'est une autre histoire. Eux, ils sont derrière lui. Ils cautionnent l'ensemble de sa démarche. Ils trouvent même qu'il était calme. Ils trouvent même que il est autoritaire au bon sens du terme et qu'il est combatif. Donc, on a deux visions. Et si je reviens sur la question que vous posiez de est-ce que c'est un procès politique, c'est sans conteste pas du tout un procès politique pour l'ensemble des Français, puisque dans le sondage,
c'est 62% hein, voilà. qui estiment que ça n'est pas un procès politique.
Mais du côté de la France insoumise, vous avez 84% des gens de la France insoumise qui disent oui, bon. C'est un procès, voire même un complot. Et comme dans toutes les théories de complot, eh bien, on trouve toujours des tas d'éléments qui prouvent que vous étiez bien dans une logique de complot.
On pourrait dire que 4 Français sur 10 qui croient quand que c'est un procès politique, c'est pas rien.
On va plonger dans ce fameux sondage dans un instant. Tout d'abord, le rappel de l'info à 20h10 sur France Info avec vous, Jules Dekis.
Alors que s'ouvre aujourd'hui son procès pour rébellion, Jean-Luc Mélenchon n'a plus vraiment la cote auprès des Français. Seuls 28% d'opinion favorable d'après notre sondage, Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. C'est 14 points de moins qu'il y a 2 ans. Le patron de la France Insoumise est jugé avec 5 autres cadres du parti pour s'être opposé à des policiers et à des magistrats lors de perquisitions houleuses il y a 1 an. Un essai clinique illégal réalisé dans une abbaye près de Poitiers. L'affaire est révélée aujourd'hui par l'Agence nationale du médicament. 350 malades de Parkinson et d'Alzheimer se sont vus inoculer 2 molécules aux effets encore méconnus. Test réalisé par le fonds Josepha. Il est controversé et dirigé par un professeur réputé notamment pour ses positions anti-vaccins. Le polémiste d'extrême droite Alain Soral est condamné à 18 mois de prison ferme pour provocation à la haine raciale et injure publique aggravée. Décision du tribunal correctionnel de Bobigny. Il avait diffusé sur internet un clip de rap antisémite. Il devra également s'acquitter d'une amende de 45 000 euros. Il y a un point sur lequel ils sont d'accord, c'est la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais pour le reste, ils divergent. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz sont toujours dos à dos après les élections législatives en Israël. Aucun ne peut former une majorité et tous deux veulent diriger le prochain exécutif. La Ligue Europa de football ce soir, 2 clubs français jouent pour cette première journée. Début de la 2e mi-temps à Rennes, les Bretons mènent 1-0 contre les Celtic Glasgow. Et à 21h, Saint-Etienne joue contre les Belges de la Gantoise.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le sondage, donc, évoqué à l'instant par Jules Dekis, mais tout d'abord, Véronique Reilsoult veut apporter une précision après ce qu'a dit Géraldine Wefner.
Je voulais vous dire qu'effectivement, c'est plutôt important si on le lit par la négative. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute un des hommes politiques qui a l'écosystème numérique le mieux construit et le plus puissant. Il a une chaîne télé, il a un blog, il a un compte Facebook et un compte Twitter qui est très nourri, qui est très suivi. Donc, l'ensemble de ces éléments et ces informations, il les a distillés. Donc, ça participe sans doute plus des images qui par moments ont été redécortiquées et re-racontées par les militants. Donc il est probable que cet écosystème, il a participé à faire quand même passer un certain nombre de messages.
On peut participer aussi au fait que d'autres sympathisants, d'autres formations politiques qui eux aussi pensent vivre une justice politique, je pense évidemment aux sympathisants du Rassemblement National, pense que ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre et que les deux seraient victimes d'une justice politique.
Il en fait une totale stratégie politique, ce qui s'est quand même passé aujourd'hui lors de l'audience est impressionnant. On n'a jamais vu ça. Les prévenus qui live tweetent eux-mêmes leur procès. Il y avait un tweet toutes les deux minutes de Jean-Luc Mélenchon tout l'après-midi. Je pense que c'est du jamais vu. Oui. Ils surfent complètement là-dessus.
Nous étions quasiment en direct dans le prétoire. Absolument. Allez, l'enquête Odoxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, méthode habituelle auprès d'un millier de personnes sur Internet hier et aujourd'hui. Le propos de Céline Braque, la directrice générale d'Odoxa.
Clivant, il a toujours été, et il y a de plus en plus de Français aujourd'hui, ils sont quasiment tous contre Jean-Luc Mélenchon. Et en l'occurrence, cette idée de procès politique, elle ne prend pas du tout dans l'opinion. On a 62% de Français qui considèrent que cette idée de procès politique, eh bien, ils ne sont pas d'accord avec cela.
Alors Véronique Rel-Soul, par-delà les 62% des personnes interrogées, etc., il y a l'image de Jean-Luc Mélenchon et l'opinion qui est très mauvaise.
Il a chuté depuis... il a perdu 14 points en 2 ans. Mais c'est en fait, il y a eu un moment, une bascule qui s'est opérée dans l'opinion publique parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas l'intention de voter pour lui, mais qui le trouvaient tribun, qui trouvaient qu'il avait une façon de s'exprimer qui était intéressante. Et en tout cas, il suscitait une forme d'intérêt. C'est ce moment où il a sorti cette phrase... Je suis la République, et depuis, il y a...
Elle lui colle à la peau, cette petite phrase.
Elle lui colle vraiment à la peau, elle est tout le temps reprise quand on parle de lui.
Pascal Jalabert.
Oui, alors les sondages, il faut aussi regarder un peu dans le détail, et ce qui est le plus inquiétant pour Jean-Luc Mélenchon, et pour lui, c'est qu'en effet, il a un fan club du côté des Insoumis, ça, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est normal.
Mais sa cote est très basse c'est ce que j'ai vu dans le sondage, parmi ceux qui ont voté... pour Europe Écologie, les Verts aux européennes, et également par ceux qui se disent sympathisants socialistes. Voilà. Et ça veut dire que, eh bien, ces gens qui manifestent pour le climat, qui se préoccupent des questions environnementales, ils n'ont pas envie de ce style-là, ils n'ont pas envie de style de manifestation. Et là, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de mal d'élargir son socle qu'il ne l'a fait en 2017.
Gilles Bornstein, sur ce déplacement des lignes à gauche.
C'est exactement ça. Jean-Luc Mélenchon, à un moment, il a eu un succès parce qu'il a su capter un électorat de gauche socialiste, parce que François Hollande n'était pas vraiment un révolutionnaire et que sa volonté de ne bouger qu'à la marge le système ne plaisait pas à des gens de gauche et que la volonté de renverser la table de Jean-Luc Mélenchon plaisait à ces gens-là, qui en gros venaient à lui pour une problématique sociale. Mais c'est des gens qui voulaient changer de politique, mais qui ne voulaient pas forcément changer de système. Et quand Jean-Luc Mélenchon donne l'impression de vouloir changer de système, de vouloir changer les institutions, eh bien ce sont des électeurs de gauche, je dirais pas modérés, mais de gauche intermédiaire, qui ne le suivent plus. Et il se retrouve effectivement,
alors qu'il était l'ogre qui devait dévorer tout l'espace politique à gauche. Alors sur son image, il est jugé agressif, pas sympathique, là encore par près des trois quarts des Français. Outrancier a même expliqué ce matin Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui était l'invité politique de 8h30 de France Info.
Il en a beaucoup fait, beaucoup trop fait, et c'était très violent. Les images, je ne sais pas si elles traduisent l'exacte réalité des choses, mais sont assez violentes. On ne peut pas maltraiter la police ou les juges lorsqu'ils font leur métier. Cela dit, la personnalité de Mélenchon, on la connaît, elle est outrancière dans les bonnes choses et les mauvaises choses. On a besoin aussi de personnalités un peu outrancières de temps en temps, et pas uniquement de gens qui n'élèvent jamais
le
ton. Au fond, je lui souhaite bonne chance.
Géraldine Vosner, bonne chance, dit Éric Woerth. C'est presque affectueux, finalement.
Oui, parce qu'on sent qu'il mise énormément, qu'il joue un peu le tout pour le tout pendant ces deux jours de procès. C'est son moment, parce que son image a été dégradée auprès des Français après les perquisitions, mais aussi auprès des militants et auprès de certains cadres de la France insoumise qui disaient « mais on fait des efforts inouïs pour paraître sérieux, pour faire des propositions, pour être un parti de programme et constructif, et ces efforts ont été été ruinée en quelques images et continue à l'être parce qu'elle tourne en boucle depuis sans discontinuer. Donc là, il mise beaucoup. Aujourd'hui, on l'a vu plus calme, c'est vrai. Il explique, il a des arguments à faire valoir. Il dit, voilà, je me suis réveillée tôt, on m'a maltraité. L'issue de ces deux jours sera très importante pour lui. Est-ce qu'il arrive à renverser cette tendance? Pas simplement en parlant de complotisme.
Oui, moi aussi, je voudrais d'une certaine manière, comme Éric Woerth, réhabiliter Jean-Luc Mélenchon. Il y a du bon dans Jean-Luc Mélenchon. D'abord, face à Emmanuel Macron qui propose cette politique du bon sens, d'une sorte de pensée unique, il y a ce qui marche et ce qui marche pas, il n'y a plus d'idéologie, lui, il remet de l'idéologie, il remet du rapport de force. Et c'est aussi une lecture de la politique. C'est un homme talentueux et cultivé, et puis surtout, je trouve que c'est un homme qui a su ramener à la politique une jeune génération qui était complètement dépolitisée, et il a su leur parler. Donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est un opposant utile. C'est dommage qu'il se gâche lui-même.
Il va falloir voir en quoi c'est constructif aussi. Je pense que la politique de la révolution permanente et de l'opposition permanente, à un moment, elle coince. Et puis, on l'a vu aussi aux Européennes. Il faut passer à des propositions, et là-dessus...
Pascal Jalabert, vous diriez qu'il joue également son avenir politique à travers ce procès de deux jours?
Très clairement, oui, parce que là, il faut quand même remettre... un peu la mairie au milieu du village, son dernier score électoral, c'est 6%. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est tombé de 19,5% à 6%. Donc, c'est quand même... C'est la seule chute spectaculaire aux européennes. C'est encore plus que M. Bellamy. Donc, du coup, il y a urgence pour lui à se redresser. Et puis, chez les insoumis, alors, il y a ceux qui sont autour de lui. C'est vrai qu'on a beaucoup vu Adrien Quatennens, Alexis Corbière... François Ruffin, alors il suffit que je dise ça pour qu'on l'entende demain, mais pour le moment, on le voit pas trop faire des coups d'éclat sur cette histoire. Le Parti communiste, on l'entend pas non plus. Donc, il y a le risque également d'isolement pour le leader.
Vous dites isolement, mais est-ce qu'il existe un leader de rechange au sein de la France insoumise? Je vois Gilles Bernstein qui hoche du chef.
Non, ils sont tous très bons, très formés, très cultivés, une immense culture politique.
Efficace,
mais on sent que c'est comme le MoDem à une époque, qui s'est formé autour de François Bayrou et qui n'a pas d'héritier. Ce sont des gens qui protestent contre le système présidentiel, mais qui finalement en profitent parce qu'ils ont une personnalité hors norme à un moment, qui sait prendre la lumière et qui sait profiter d'une élection présidentielle. Alors, Alexis Corbière a beaucoup de talent, François Ruffin aussi, mais je vois mal qu'ils arrivent à réellement prendre sa place.
À 20h20 sur France Info, on marque une pause. Le rappel de l'info avec Jules De Kiss.
8 ans après avoir quitté le pouvoir en Tunisie, chassé par son peuple, Zine Ben Ali est mort à 83 ans en Arabie Saoudite. C'est là qu'il était exilé. Il aura gouverné son pays pendant 24 ans, de 87 à 2011, avant la révolution de Jasmin, le premier soulèvement des printemps arabes. La CFDT de la compagnie Aigle Azur joue son va-tout pour trouver un repreneur. Sur France Info, l'un de ses dirigeants propose un accord de performance pour revoir la durée de travail et la rémunération des salariés. Il espère ainsi faire revenir à la table des négociations Air France et Air Caraïbes. Les deux groupes ont retiré leur offre commune de reprise. C'était celle qui avait les faveurs des personnels de la compagnie en liquidation judiciaire. Un brigadier de 45 ans s'est suicidé aujourd'hui dans son commissariat avec son arme de service. Cela s'est passé à Louvroil dans le Nord et c'est le 50e suicide dans la police depuis le début de l'année. Un fléau contre lequel le gouvernement veut lutter. Il a mis en service un numéro vert au début du mois. Emmanuel Macron rencontrera Donald Trump pour parler du dossier iranien la semaine prochaine. Ce sera en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La France veut obtenir une désescalade dans la crise du Golfe. Les Américains, eux, menacent d'agir contre l'Iran, pourquoi pas militairement. Washington accuse Téhéran d'avoir attaqué des installations pétrolières saoudiennes la semaine dernière. Théoriquement, un gardien de football peut gagner le Ballon d'Or. C'est même arrivé une fois, c'était Lev Yashin en 1963. Mais cela semble être l'exception qui confirme la règle. Et donc, France Football lance cette année le prix Lev Yashin. Il récompensera le meilleur gardien de la saison et sera remis en même temps que le Ballon d'Or le 2 décembre prochain.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Y a-t-il un leader de rechange? Nous nous posions la question à l'instant et ça tombe bien parce que Véronique Reilsoult, il y a cet aspect très important dans le sondage, c'est le côté handicap de Jean-Luc Mélenchon, désormais.
Eh bien, pour 74% des Français, désormais, Jean-Luc Mélenchon est un handicap. Donc, de nouveau, On va regarder ce qu'ont dit les militants de la France insoumise, en tout cas les sympathisants. Et pour eux, à 93%, c'est un atout. Donc on va dire que, voilà.
Oui, il y a l'aspect militant, puis il y a la vie générale, quoi.
C'est la
oui.
vie générale. Alors effectivement, quand on va regarder les sympathisants de gauche, ils sont un peu moins sévères, mais ils ne sont pas aussi dithyrambiques que les membres de la France insoumise. Mais c'est vrai qu'il est souvent vu maintenant comme un handicap, en particulier parce que souvent, on considère qu'il la joue un peu trop perso, un peu trop, c'est son aventure. Et puis, il y a un item qui est intéressant à regarder, oui. qui est la proximité avec les gens. Et on voit que ben voilà, c'était un de ses atouts. Et les gens trouvent qu'il est plus si proche que ça des gens, qu'il a une façon d'appréhender la politique et son histoire qui est quand même un peu distante de la réalité du quotidien des uns et des autres.
Pascal Jalabert, nous sommes loin des 19,2% de la présidentielle de 2017.
Oui, alors on sait très bien qu'en politique, tout va très vite. Rappelons-nous Jean-Marie Le Pen, 15% en 95, deuxième tour en 2002, et il chute à 10% quelques années après. Et puis avec le même parti, sa fille remonte à 18%. Donc la politique, c'est pas nature du yo-yo. Jean-Luc Mélenchon, il n'est quand même pas en début de carrière. Il a peut-être eu son heure de gloire à la présidentielle. C'est vrai qu'il a du mal, quand on discute avec lui, à se remettre, à pas avoir été au second tour. Parce qu'il y a cru dans les derniers jours. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Géraldine parlait d'opposants utiles. Est-ce que quelque part il n'est pas un opposant utile à Emmanuel Macron, qui a d'un côté Marine Le Pen, Rassemblement National, et de l'autre Jean-Luc Mélenchon, avec des électeurs qui n'ont pas envie de se transférer vers ces deux personnalités.
Justement, Pascal Jalabert, Marine Le Pen, c'était aux 4 vérités ce matin sur France 2, a volé au secours de Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute.
Sur le fond, il y a incontestablement une politisation de la justice qui s'est aggravée sous le mandat d'Emmanuel Macron, mais qui a démarré en réalité sous celui de François Hollande avec la création du parquet national financier, qui est un parquet d'exception. Que depuis un certain nombre d'années, il y a de la part du système politique une instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques.
Et Géraldine Vosner, curieuse convergence tout de même.
Non, moi je la trouve parfaitement logique cette convergence. On se souvient de Marine Le Pen qui avait elle aussi, elle s'était étonnée en 2018. Vous savez, un autre type d'affaire, pour le tweet d'une image à caractère terroriste, elle avait été convoquée pour une expertise psychiatrique et puis elle avait médiatisé ça, elle en avait fait des caisses alors que c'était un truc complètement administratif qu'elle était absolument pas obligée de s'y rendre, qu'on n'en aurait pas parlé. Elle sait aussi l'utiliser, mais je pense qu'il partage aussi ce même sentiment de persécution, Gilles le disait, qui est parfaitement sincère. Et je pense sincère parce qu'il y a une faille dans le droit qui laisse la porte ouverte au doute. Il était question de réformer ce mode de désignation des magistrats du parquet. Ça a été abandonné. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra rediscuter.
Oui, on revient toujours à ce point, finalement, Gilles Bornstein, cette espèce d'écueil finalement qui est sur la table depuis des années et qui n'est jamais résolu.
En tout cas,
beaucoup de
gardes des Sceaux, beaucoup de gouvernements ont promis une réforme de la justice pour couper définitivement le lien. Personne ne l'a fait pour des raisons que je peux comprendre. Moi, je comprends qu'un gouvernement puisse donner des directives générales de politique pénale. Ça fait partie de la politique. On donne des directives économiques, on peut aussi donner des directives de politique pénale. Mais c'est vrai qu'il y a ce lien de subordination des magistrats aux gardes des Sceaux. Ouais. Qui jettent le doute sur leur...
On en arrive à...
Géraldine Vosner.
Sur leur décision.
C'était très compliqué au moment où François Bayrou a été peu de temps ministre de la Justice. C'est simple. Les remontées de terrain, c'est écrit dans la loi. Les parquets doivent remonter les informations à la chancellerie. Et François Bayrou, à l'époque, avait donné pour consigne qu'on ne l'informe pas des affaires qui pouvaient le concerner. Enfin, ça devient complètement absurde. Et de fait, pendant l'affaire Cahuzac, le parquet a reçu 54 notifications. Le lien n'est pas coupé. On peut le penser, on peut le dire. Il l'est sans doute parce que la plupart des ministres le respectent, mais le doute est là.
Pour finir sur ce chapitre, ce long chapitre de ce procès en deux jours, de ces responsables de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon devant le tribunal de Bobigny, Pascal Jalabert, vous disiez, au fond, vous avez raison, la politique, ça va, ça vient, mais n'y a-t-il pas aujourd'hui une sorte de virage durable vers quelque chose de plus vert et peut-être de plus apaisé et constructif dans la vie politique de ce pays, d'où le succès de Yannick Jadot récent aux européennes, et ça a l'air de s'installer
Oui, alors ce qui s'installe, c'est en effet la prise de conscience de l'urgence climatique. Je crois que c'était un sondage Ipsos-Teria pour l'Institut Montaigne qui, chaque année, interroge les Français sur les fractures. Et pour la première fois, l'urgence climatique vient dans le top 3 et même en tête chez les plus jeunes. Donc du coup, là, on a basculé vers un autre modèle, vers une autre exigence de la société. Et pour le moment, c'est en effet le Parti Europe Écologie Les Verts qui l'incarne le mieux. Leur difficulté, ouais, ça va être à se structurer, à trouver des représentants locaux, régionaux, qui soient capables de porter ces messages.
Allez, l'image de Jean-Luc Mélenchon altérée, hein, selon notre enquête d'Oxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, à découvrir, à relire sur notre site franceinfo.fr. Nous marquons une pause, la météo, rappel de l'info, et ensuite nous évoquerons la disparition de Ben Ali et les propos d'Emmanuel Macron dans Time.
Le jeudi 26 septembre à 20h, à l'Auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Joshua Weilerstein, vous invite à un voyage dans le temps. De la suite des Indes galantes de Rameau à la Symphonie écossaise de Mendelssohn, de Bach à Webern, sans oublier le concerto pour violon de Stravinsky, interprété par la jeune violoniste Wilde Frang, ce concert embrasse la vaste histoire de la musique, celle d'hier et d'aujourd'hui. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Demain, peu de changements, toujours beaucoup de soleil pratiquement partout, un petit vent de nord-est un peu plus discret. Entre les Pyrénées, le sud des Alpes et la Corse, on aura des passages nuageux. Le matin, on les trouvera sur le pourtour méditerranéen avec quelques averses sur le Languedoc-Roussillon. L'après-midi, on ajoutera quelques averses sur le sud des Alpes, la montagne Corse, un risque d'orage pour les Pyrénées. Le vent d'est à sud-est se mettra en place sur ces régions. Le vent d'autant soufflera jusqu'à 80 km à l'heure de l'Aude au midi toulousain. Il fera parfois frais le matin, 2 à 10 degrés sur un grand quart nord-est, mais encore 16 à 19 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, ça repartira à la hausse, 21 degrés à Cherbourg, 22 à Lille, Brest, Strasbourg, 24 degrés à Paris, 27 à Angers, Lyon, Toulouse et Marseille, 31 à Bordeaux ou Biarritz. Attention, le temps va se dégrader ce week-end, des pluies orageuses parfois intenses dès samedi sur le Languedoc-Roussillon et les Cévennes.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Augustin Arrivé.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Zine Ben Ali n'aura pas revu Tunis, il est mort aujourd'hui en Arabie Saoudite. L'ancien président qui avait dirigé la Tunisie entre 1987 et la révolution de Jasmin de 2011, Nadine Epstein, il s'était sauvé en cachette avec sa famille.
Le président déchu Ben Ali et sa femme Leila Trabelsi ont trouvé asile en Arabie Saoudite malgré un mandat d'arrêt international et une demande d'extradition. Les époux ont fait l'objet de 18 actions en justice pour complot contre la sûreté de l'État, homicide volontaire, pillage et meurtre. Ils ont été condamnés par contumace en Tunisie. Despotisme et corruption ont été les deux piliers du camp Ben Ali. Ben Ali dirigeait la Tunisie depuis 1987 après avoir renversé le père de la nation sous prétexte de sa sénilité, Habib Bourguiba, président depuis l'indépendance en 1964. Puis tous les cinq ans, de 1989 à 2009, Ben Ali s'est fait réélire à la tête de l'État avec des scores de 99 à 89% des suffrages. L'homme fort de Tunis chargeait la police et la censure de tout verrouiller. Les Tunisiens appelaient le ministère de l'Intérieur le ministère de la Terreur. Et ce sont ces Tunisiennes et ces Tunisiens qui, privés de liberté, de dignité et de travail, ont renversé le dictateur.
Nadine Epstein et Zine Ben Ali avaient 83 ans. On est à moins de 10 jours maintenant de la présidentielle en Afghanistan et depuis lundi, chaque journée qui passe est ensanglantée par un attentat. Aujourd'hui, ce sont 20 personnes au moins qui ont été tuées par l'explosion d'un camion piégé. C'était près d'un hôpital dans le sud-est du pays. Et 9 civils sont morts dans des frappes de drones dans l'est. Là, c'est une bavure de la police qui croyait viser des terroristes de Daesh. La Russie et la Chine refusent la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie. Double veto ce soir au Conseil de sécurité des Nations Unies. La ville d'Idleb, bombardée depuis 4 mois par le régime syrien. La Turquie, la Russie et l'Iran s'étaient engagés en début de semaine à protéger la population civile. civile. 4 dossiers de reprise déposés pour la compagnie Aigle Azur en redressement judiciaire. On ne connaît pas le détail des offres. Le tribunal de commerce a laissé jusqu'à minuit aux éventuels intéressés pour se faire connaître. 1150 emplois sont menacés. On sait qu'Air Caraïbes, EasyJet et Air France ont renoncé à proposer quoi que ce soit. Muriel Rosenfeld, l'attachée de presse de la France Insoumise, dernière prévenue à être entendue aujourd'hui au tribunal de Bobigny. 5 autres personnes se sont succédées pendant la journée, toutes poursuivies pour rébellion et intimidation. Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, notamment, ceci pour leur comportement pendant la perquisition au siège du parti. C'était l'année dernière. Rennes face au Celtic Glasgow, c'est la deuxième mi-temps de ce premier match de l'Europa League de football. On en est à 81 minutes de jeu. Il y a un partout entre les deux clubs. À 21h, ce sera le coup d'envoi de la Gantoise contre l'AS Saint-Etienne. La suite des informés maintenant jusqu'à 21h, Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie avec Géraldine Wössner, journaliste au Point, Véronique Rel-Soult, présidente de Dentsu Consulting, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe Ebra, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Alors nous allons évoquer la mort de Ben Ali à l'âge de 83 ans à Jeddah en Arabie Saoudite, où l'ancien maître tout-puissant de la Tunisie s'était réfugié depuis 2011. Bonsoir à vous, Taoufik Mjahid.
Bonsoir.
Allez, vous êtes rédacteur en chef à France 24, vous êtes en direct de votre rédaction. On était avec vous l'autre soir, hein, vous étiez à Tunis, et là, pour ce qui est de Ben Ali, cher Taoufik Mjahid, c'est une page définitivement tournée sur ce que furent les printemps arabes.
On parle des vivants et des morts aussi. Maintenant, on va parler de Ben Ali. C'est vrai que l'ère Ben Ali est finie depuis longtemps. Il reste quelques nostalgiques de l'ère de Ben Ali qu'on voit, surtout les chauffeurs de taxi ou d'autres. Mais tout ça pour des raisons de sécurité. Ils disent, à l'époque de Ben Ali, on avait la sécurité. Il y en a beaucoup qui vont peut-être pas regretter l'ère Ben Ali et qui ont complètement tourné la page de Ben Ali, vu bien sûr le bilan de cette période où Ben Ali était président de la République, voire même depuis qu'il était ministre de l'Intérieur ou alors Premier ministre. Il s'est présenté au début comme ouvert à la démocratie, après il a serré les vis, principalement à l'égard des islamistes. Lui, il disait « je veux d'abord le développement, ensuite la démocratie ». Mais il ne supportait aucune voix discordante. Il a mis beaucoup de journalistes en prison. Vous vous souvenez de Taoufik Ben Brik? Par exemple, vous vous souvenez d'autres qui se sont réfugiés en France, Siam Ben Sedrine. Ce qui est l'équivoque quand on parle de Ben Ali, c'est que la plupart de ceux qui ont été réprimés par Ben Ali sont devenus des figures importantes en Tunisie après le départ de Ben Ali.
Encore un mot avec vous, Taoufik Mjahid. Vous connaissez bien la Tunisie. Celle de l'après Ben Ali, celle que vous évoquiez lundi soir en direct de Tunis, elle ne s'est pas forcément relevée. Hein. La seule ressource, on le sait, c'est essentiellement le tourisme. Et c'est un pays inquiet aujourd'hui.
C'est un pays inquiet. C'est un pays qui se pose des questions. C'est un pays qui attend le résultat d'un scrutin. Toujours, on ne sait pas comment ça va se passer avec un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle qui est toujours en prison. On ne veut pas le libérer. C'est un pays inquiet aussi pour des raisons économiques, pour l'endettement aussi du pays, pour la situation économique difficile. Mais c'est un pays qui a espoir, qui pense que les jeunes peuvent sortir de cette situation assez compliquée. Il y en a qui disent qu'on a toujours eu une période très difficile depuis 2011, mais peut-être l'avenir sera meilleur.
Merci à vous en tous les cas, Taoufik Mjahid, en direct, hein, je le rappelle, de la rédaction de nos partenaires de France 24, Véronique Rel-Soult. Les sentiments sont partagés à l'égard de cet ancien président qui avait quand même disparu de la vie publique.
Hein. Alors, il suffit de regarder le nombre de messages qu'il y avait, évidemment, en Tunisie. Il y en a beaucoup, un peu partout dans le monde, mais j'ai plutôt regardé ceux qui étaient en Tunisie. En fait, on peut les ranger dans trois grandes catégories. Il y a un peu d'incrédulité, mais pas tant qu'ils doutent, peur de s'emballer ou de pas s'emballer. Enfin voilà, il y a encore ce sentiment qu'on ne peut pas tout à fait parler et que la parole n'est pas si libre que ça pour parler de ce président. Après, il y a une partie étonnamment qui semble regretter ou en tout cas qui liste souvent le fait que l'économie allait mieux avant et donc finalement, étonnamment, ne regrette pas l'homme mais regrette une époque, une forme de nostalgie. Et puis vous avez évidemment beaucoup de gens qui rappellent l'ensemble de ce qui s'est passé pendant son règne et qui, sans se réjouir de sa mort, disent voilà, on passe à autre chose, et qui voient finalement aussi un symbole dans la date de la mort de cet homme au moment d'une élection qui est compliquée. Et donc ça fait partie de...
Tours, il faut le rappeler.
Voilà, oui, donc beaucoup de commentaires dans ce sens-là.
Géraldine Vosner, Ben Ali, c'est au fond le passé, ça va jusqu'à 2011. Souvenez-vous, hein, l'union pour la Méditerranée avec d'autres leaders à l'époque, Kadhafi, Moubarak, tous ont été balayés. Cette Tunisie aujourd'hui, c'est plus la même.
Non, mais tous ont été balayés. Moi, Le souvenir de ce chiffrage de la Banque mondiale, quand ils avaient calculé que 5 milliards d'euros, presque un quart de la production privée du pays était parti dans les poches du clan Ben Ali, a été balayé effectivement, et on s'aperçoit qu'en 2019, c'est toujours pas relevé de cette époque. Je crois que vous avez, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est le cinquième scrutin qui est organisé depuis sa chute. Ça commence à peine à se normaliser, mais on voit clairement que c'est pas terminé. C'est un long processus.
Et Pascal Jalabert, il y a un deuxième tour qui arrive. On ne sait pas si c'est le 6 ou si c'est une autre date, parce qu'il faut organiser des législatives également. Avec ces deux candidats, Kais Saïd, 61 ans, ce juriste qui est en tête, qui est un être un peu étrange, surnommé Robocop, et surtout Nabil Karoui, le patron de chaîne de télé, Nesma, qui est le Berlusconi tunisien, toujours derrière les barreaux. Son appel n'a pas fonctionné. C'est quand même un scrutin assez énigmatique à nos yeux.
C'est plus qu'énigmatique et ça témoigne d'un grand désarroi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une forte abstention et que les deux candidats qualifiés pour le second tour n'ont même pas obtenu 20%. On a des candidats à 19 et à 15% qui sont au second tour. On a le parti islamiste Ennahda qui a gouverné juste après Ben Ali, qui est même pas au second tour, qui a échoué. Donc là, aujourd'hui, le pays est dans le plus grand désarroi. Je crois que l'urgence, c'est en effet l'économie. Ben Ali a laissé un pays endetté, et derrière, personne n'a su mettre en place un programme économique, social, alors que ce pays a quand même du potentiel agricole, du potentiel touristique, on l'a dit, du potentiel portuaire. Il y a quand même des ingénieurs formés. Donc là, l'urgence, c'est l'économie. Il faut inventer un New Deal, un plan Marshall, quelque chose. Mais ceux qui vont arriver au pouvoir doivent se préoccuper de ça. Voilà.
Gilles Bernstein, c'est dégagiste hein, quand même ce scrutin auquel on assiste en Tunisie.
Ah oui, totalement dégagiste, puisque
deux candidats. C'est l'ère du temps.
C'est l'ère du temps, deux candidats totalement hors système. Un mot sur Ben Ali, qui m'a amusé, c'est un peu exagéré, mais dans ce monde où on sait absolument tout sur tout le monde, Ben Ali, on n'avait pas la moindre idée de comment il vivait. On sait qu'il était à Jeddah. Oui. À part ça, on ne sait rien. On ne sait pas dans quelle maison, on ne sait pas dans quelles conditions. On sait qu'il est parti avec sa femme, Leïla Trabelsi, donc celle du clan, et deux enfants. On ne le voyait jamais.
Disparu en Arabie Saoudite.
Disparu totalement. On ne savait pas qui lui rendait visite. On ne savait pas sous quel régime il était exactement. Les dernières photos datent de janvier au mariage de sa fille avec un rappeur, ce qui est quand même pas ce qu'on attendait le plus. Il y a eu deux demandes d'extradition, je crois, de la Tunisie, où il avait été condamné à une peine de prison à vie, qui ont toutes les deux été refusées.
Cinq fois, par le régime
saoudien. Mais dans ce monde de réseaux sociaux où on sait tout, lui, on ne savait strictement rien.
Allez, la disparition de Ben Ali à l'âge de 83 ans, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
L'agence du médicament interdit un essai clinique sauvage réalisé sans autorisation dans une abbaye près de Poitiers. Elle saisit la justice pour que soit poursuivi le fonds Josepha. C'est la structure très controversée qui a inoculé deux molécules aux effets encore méconnus sur au moins 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer. Son dirigeant, le professeur Henri Joyeux, est notamment connu pour ses positions anti-vaccins. L'ancien président tunisien Zine Ben Ali est mort à 83 ans cet après-midi en Arabie Saoudite. Il vivait en exil depuis la révolution de Jasmin en 2011, le premier acte des printemps arabes qui a conduit à sa chute. Airbnb annonce son intention d'être introduit en bourse l'année prochaine. 11 ans après sa création, la plateforme de location de touristique entre particuliers a bien grandi. Elle revendique 6 millions de logements dans 191 pays, valeur estimée 31 milliards de dollars. La France débute sa Coupe du Monde de rugby contre l'Argentine demain au Japon et on connaît le 15 de départ. A noter le retour de Virimi Vakatawa. Il sera aligné au centre alors qu'à l'ouverture, le jeune Romain Ntamack, 20 ans, est préféré à Camille Lopez. Et puis on apprend ce soir la mort de l'acteur Charles Gérard à 96 ans. Il a joué de nombreux seconds rôles dans des films de Claude Lelouch comme L'aventure c'est l'aventure, beaucoup aussi aux côtés de son grand ami Jean-Paul Belmondo. Et on le reconnaissait notamment à son grand nez cassé par Bebel lui-même lors de leur premier combat sur un ring.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà une pensée pour Charles Gérard, hein. Quelle triste nouvelle, personnalité éminemment attachante et sympathique du cinéma français. Allez, Emmanuel Macron a deux jours d'un samedi noir, celui des journées du patrimoine, on va y venir dans un instant, qui va connaître la convergence de trois grandes mobilisations, le climat, les retraites et surtout les gilets jaunes. Eh bien, le président de la République s'exprime, il fait la une d'ailleurs de Time, l'édition européenne de ce magazine hebdomadaire américain, il s'exprime dans une interview qui a été tourné en vidéo, et il confie dans cet entretien que d'une certaine façon, la crise des gilets jaunes aura été très bonne pour lui, il dit bien très bonne, parce qu'elle l'aura obligé à changer d'attitude face aux Français. Une question lui est posée, a-t-il été choqué par cette crise ? Écoutez sa réponse.
Écoutez, je pense que la question n'est pas d'être choqué, mais d'essayer de comprendre et de répondre à cette situation. Je pense que c'est en partie la réaction des classes moyennes et des classes populaires que nous avons dans nos démocraties. Toutes ces grosses transitions économiques, numériques, technologiques, climatiques, le résultat principal, c'est qu'on n'améliore pas leur vie quotidienne et qu'on augmente le niveau de la peur.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette interview. Gilles Bornstein, pourquoi cette interview à ce moment-là ? Est-ce que vous y voyez une corrélation avec ce qui va se produire éventuellement ce samedi ?
Bon, en tout cas, j'y vois une corrélation avec le fameux acte 2, dont on n'arrête pas de nous
du
annoncer le début, oui. L'acte 2 du quinquennat, et c'est vrai que cet acte 2 doit être à base d'écoute supplémentaire. Ce que je trouve, enfin, il est quand même étonnant, le président Macron, faut bien dire les choses, parce que quand nous, journalistes, on critiquait un peu sa méthode, alors soit on était trop bête, incapable de penser, de percevoir sa pensée complexe, soit on était trop vieux et incapable de percevoir le nouveau monde. Et là, en gros, il dit exactement ce qu'un certain nombre disait de lui, c'est-à-dire qu'il était trop autoritaire, qu'il n'écoutait pas assez les gens et que ça allait trop vite. Mais c'est vrai qu'il a une certaine plasticité et il est étonnant. Voilà.
On va finir par le croire, Géraldine Wessner. Hein.
Bah écoutez, c'est assez frappant. Il continue d'une certaine manière le grand débat. Là, on s'exprime. Alors, c'est le Time, mais c'est l'édition européenne
hein,
du Time.
Oui, absolument.
C'est quand même pas l'édition américaine. C'est un test. Hein. Cela dit, tous ceux qui lui préduisaient une rentrée catastrophique, pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Hein, nous,
c'est même l'inverse.
Mais c'est même l'inverse. Le baromètre Ipsos du point, notre baromètre mensuel, il remonte quand même de 5 points ce mois-ci. Ça porte quand même la hausse à 16%, ouais, depuis décembre dernier. Donc, c'est une remontée. Alors, il était tombé à 20% d'opinion favorable. Il est maintenant à 36. C'est un vrai mieux. C'est pas terminé, mais c'est peut-être, et en tout cas, j'imagine qu'à l'Élysée, on voit ça comme le signe que la stratégie qui est celle de poursuivre cette explication, de se montrer beaucoup plus humble, l'humilité, c'est une vraie clé, a quand même quelques fruits. Oui,
et je précise que pour ceux qui détestent les sondages, et je les respecte infiniment, je précise quand même que le baromètre, le point, est un outil, un objet extrêmement fiable, régulier, qui colle vraiment à l'état de l'opinion dans ce pays. Pascal Jalabert, une question lui a été posée au chef de l'État. Vous êtes toujours confronté à beaucoup de gens qui vous appellent le président des riches, arrogant, lui a demandé la journaliste Vivian Walt. Il répond, dans notre pays, c'est ce que dit Emmanuel Macron, nous aimons être dirigés, mais nous voulons tuer les dirigeants. Donc c'est une référence évidemment à Louis XVI. Toujours surprenant, ce président, avec ses interviews, où il dit des choses assez décalées, finalement.
Oui, alors souvent des références historiques chez lui. Alors, président des riches, oui, ça va lui coller, parce que, pour une seule mesure, c'est la transformation de l'impôt sur la fortune. Ça, il n'enlèvera pas. Mais président des riches, mais il a quand même corrigé. Il faut rappeler que ses trois prédécesseurs n'ont pas injecté autant d'argent que lui en redistribution directe aux Français. Il y a quand même eu 18 milliards d'euros en deux fois au cours du premier semestre 2019. Or, si aujourd'hui la consommation se maintient, si la croissance française se porte un peu mieux que celle de nos voisins, c'est en partie grâce à cette redistribution. Donc aujourd'hui, la critique du président des riches, elle est quand même sérieusement atténuée. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il remonte dans le baromètre du point.
Mais alors, on verra, mais quand je lis ce qu'il a dit, la transcription par l'AFP de ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il fait sa énième autocritique sur la forme, mais il n'annonce pas de changement de fond. Il dit « je n'ai pas assez
écouté ». Il n'a jamais fait. C'est le cap, le cap.
Pour l'instant, il n'a, en dépit effectivement des milliards redistribués et d'un tournant social qu'on ne peut pas nier, il n'annonce toujours pas de changement de politique.
Le cap est le même, c'est la méthode.
Alors c'est vrai qu'il est, il devient l'apôtre du débat, hein, puisqu'il dit dans cette interview qu'au fond, il est à l'écoute, il s'est découvert il a découvert les vertus du dialogue. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait dire Eric Woerth ce matin sur France Info. C'est bien le débat, mais il faudrait se mettre un petit peu en mode action. Véronique Reltsoult, ça imprime cette image-là de « je suis le président, non plus des riches, mais le président qui ouvre le débat et qui parle, qui comprend les Français ».
Alors le débat, le président du grand débat, oui, ça imprime, ça fait partie des sujets qui sont régulièrement soit appréciés, soit raillés. C'est plus ce qui était très intéressant quand on regarde ce qui est relayé sur les réseaux à propos de cette couverture-là, c'est que tout le monde a fait le parallèle avec la couverture qui était sortie au moment de la sortie. Alors c'était l'édition américaine, là c'est l'édition européenne, mais peu importe, les gens ont pris les deux.
Le nouveau leader européen ou le prochain leader européen en 2017. Premier,
la première, et elle est largement décortiquée, elle est... Or noir, un fond noir très sombre avec un président très sérieux, un peu hautain, qui va dominer le monde. Et puis là, on a quelqu'un en bras de chemise. La couverture, elle est très claire. Et les uns et les autres disent, on voit bien un acte 2 et un acte 2 plus clair, plus humble. En bras de chemise, il est en train de remonter sa chemise. Donc les uns et les autres disent, il va aller au boulot. Donc, au-delà du fond du message qu'il a fait passer, il y a quand même une forme de, en tout cas, de message à travers les images qui a l'air de passer. Et puis, de nouveau, beaucoup de Français sur les réseaux sociaux saluent le fait qu'on a quand même un président plutôt moderne. Il y avait des comparaisons avec d'autres leaders et en disant, il s'exprime dans un anglais absolument parfait. Et vraiment, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la séduction. Bien sûr, c'est critiqué, mais il y a plus de positif que de négatif.
Géraldine Bosner, oui.
Non, mais il doit convaincre, évidemment. Et puis d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes a été aussi très suivi à l'international. L'image de la France en a pris un coup. Donc c'est pas anodin qu'il s'exprime dans le Time, qu'il leur dise, mais comme il y a eu une transmutation de président, j'ai changé, maintenant je vous entends, je vous écoute. C'est très bien. C'était attendu, donc on le perçoit, mais ça reste extrêmement flou. Personne ne comprend ce que c'est. Un grand débat, c'est écouter, c'est prendre des mesures, c'est quoi ? Et on se dit, il a finalement pas réglé le problème de fond qui a conduit aussi à la crise des Gilets jaunes. C'était ce défaut total de représentativité. Il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'employés. Ça n'est pas, ça n'est pas résolu. Donc il est contraint de débattre.
Il y a un ouvrier
à l'Assemblée ?
Non, je suis d'accord. Avec vous là-dessus, je ne suis pas certain que le déclin, que vraiment la cause du mouvement des Gilets jaunes soit ces affaires de représentativité. Je crois qu'il y avait davantage une affaire de pouvoir d'achat, d'absence de
fiscalité sur les carburants,
de fiscalité, de
vie quotidienne.
Que je ne nie pas que ces problèmes existent. Véronique doit savoir ça mieux que nous, mais dans l'importance accordée aux Français, j'imagine que les histoires de pouvoir d'achat étaient quand même plus importante.
Allez, nous allons évoquer les gilets jaunes, entre autres, dans un instant. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Pour plus de 6 Français sur 10, le procès de Jean-Luc Mélenchon qui s'est ouvert aujourd'hui n'est pas un procès politique. Résultat du sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Ce procès pour rébellion se déroule aujourd'hui au tribunal de Bobigny. Le patron de la France Insoumise est jugé avec d'autres cadres du parti pour sa conduite lors de perquisitions houleuses il y a un an. Autre enseignement de cette étude, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon s'effondre. 28% des personnes interrogées ont une bonne opinion de lui. C'est 14 points de moins qu'il y a 2 ans. Le président de la Commission européenne estime ce soir qu'un accord sur le Brexit est possible avec Londres. Jean-Claude Juncker évoque un compromis sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Bruxelles pourrait se satisfaire d'un rétablissement d'une frontière si les échanges commerciaux demeurent facilités, qu'il n'y ait notamment pas de contrôle douanier. Avec un faux billet sur vous, vous vous êtes sûrement fait avoir. Avec 2, en revanche, vous êtes suspect. Et c'est fort de cette logique que les policiers du Doubs sont remontés à un couple. Plusieurs commerçants de Pontarlier se sont plaints d'avoir été payés avec de fausses coupures. au domicile des mises en cause. Les enquêteurs ont retrouvé 20 000 euros en faux billets de vin. Les suspects reconnaissent les avoir achetés pour financer les besoins du quotidien. Et puis ça vient de se terminer entre Rennes et le Celtic Glasgow. Première journée de la Ligue Europa de football. Match nul un partout à domicile pour les Bretons contre les Écossais. Et puis dans 10 minutes, c'est Saint-Etienne qui entre en piste. Les Verts jouent sur la pelouse belge de la Gantoise.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il arrive donc ce samedi, peut-être infernal, hein, pour les journées du patrimoine, gilets jaunes, retraite, climat, des forces de sécurité sous tension. Écoutez Stanislas Godon, le porte-parole du syndicat Alliance. Il a évoqué sur France Info ce matin des policiers chers à canon des Black Blocs.
C'est un dispositif d'exception et la crainte que l'on a, c'est que nos collègues, ils servent de chair à canon à ces Black Blocs qui maintenant se sont entraînés depuis 45 actes notamment et plus de 9 mois de revendications.
Pascal Jalabert, chair à canon des Black Blocs, l'image est forte.
L'image est forte, il ne faut pas oublier que dans quelques jours, il va y avoir une manifestation de policiers, ce qui est quand même relativement rare en France, que c'est une profession qui subit un grand malaise. D'une part, elle a été accusée, parfois tort, parfois raison, ça c'est à la justice de le dire, et puis surtout, elle a été sursollicitée depuis un an. On a eu besoin d'eux tous les jours et pour tout, la doctrine a changé, le manque de moyens dans les commissariats reste une réalité du quotidien. Donc du coup, aujourd'hui, tout ça s'accumule et là, on voit arriver...
Ça fait beaucoup.
Oui. C'est une accumulation. Et là, on voit arriver un samedi avec des manifestations syndicales qu'on peut penser encadrées et puis des choses plus difficiles à contrôler. Mmh. Et c'est vrai que ces Black Blocs, c'est un problème. En plus, il faut se souvenir, ils ne sont jamais là où et quand on les attend. Mmh. C'est-à-dire le fameux dimanche du mois de mars où ils sont venus, on les attendait plus. Ils étaient là et celui où on les attendait, ils sont pas venus. Donc cette inquiétude, elle est perceptible et elle vient dans un moment difficile pour les policiers.
Véronique Relsoult, les forces de l'ordre, enfin les forces de sécurité, le renseignement surveille énormément les réseaux sociaux, évidemment, pour savoir qui appelle qui à manifester. Est-ce que ça commence à bruisser sur les réseaux ?
Ça commence à bruisser, mais c'est surtout la complexité de ce week-end-ci avec les journées du patrimoine. Ça part un peu dans tous les sens, avec des gens qui disent finalement c'est symbolique, il faut justement faire quelque chose. D'autres qui sont en train de dire c'est certainement pas le bon moment parce qu'on ne va pas attirer la sympathie des Français et qu'il faut les laisser dans un moment qui est plutôt aimé et apprécié des Français sont deux journées fortes. Donc voilà, on a des injonctions contradictoires, nous dirons, et globalement, c'est pas si clair que ça. Évidemment, il y a le sujet des Black Blocs, mais je vous rassure, ils ne sont pas sur les réseaux que vous et moi pouvons voir.
Oui, parce qu'il faut préciser, Gilles Bernstein, que les plusieurs bâtiments seront fermés au public, oui. Éducation, agriculture, alors il y a question de la préfecture de police, on comprend mieux pourquoi. Oui. Également, les loges maçonniques et d'autres sites seront sur inscription. C'est le ministère de l'Intérieur, oui. L'Élysée.
L'Élysée, il y avait 20 000 places, elles ont été toutes remplies.
C'est fait.
Mais c'était avant certainement l'annonce d'un samedi difficile. Mais par exemple, je sais qu'au Palais Royal, où ils ouvrent des salles extraordinaires, là aussi, ils ont ouvert un certain nombre de places et elles ne sont pas toutes remplies. Je voudrais dire deux choses. D'abord, on parle souvent des fonctionnaires dont on dit qu'ils comprennent bien la France. Je voudrais saluer le génie de la Cour des comptes qui a annoncé un possible retour de la taxe carbone la veille d'une manifestation des Gilets jaunes. Non mais il faut vivre complètement dans un autre monde. Vous ne pouvez pas attendre lundi ou mardi pour le faire. Oui. On sait que les journées du patrimoine sont toujours un moment d'énorme de mobilisation dans Paris. Je trouve ça absurde.
Vous voulez dire que la Cour des comptes est un petit peu un monde à part.
Partout en France, pas qu'à Paris.
Non, absolument. Mais là, je sais que...
Parce que les Gilets jaunes à Bordeaux, à Toulouse, ils ont causé quelques dégâts.
Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que la mobilisation des Gilets jaunes, enfin, les policiers craignent surtout une mobilisation à Paris. Ils sont moins inquiets en province parce que, manifestement, il y a une volonté des Black Blocs de faire remonter le mouvement à Paris. Deuxième chose, je trouve que c'est vraiment le peuple contre le peuple, parce qu'on pourrait imaginer dans un autre monde que ceux-là même, les Gilets jaunes authentiques, ceux-là même qui manifestent, pourraient être les mêmes qui, avec leurs enfants, viennent visiter des monuments le dimanche.
C'est pour ça que je dis que les injonctions sont complètes.
Exactement. je trouve ça, et c'est vrai que l'image de gilets jaunes qui pourrait s'en prendre à des familles avec des enfants, c'est autre chose que des combats avec des flics, ouais. Et que c'est vrai que c'est une image, enfin voilà, c'est le peuple contre le peuple, et c'est dommage.
Géraldine Vosnef, vous pensez que ces mobilisations, on parle de 45e samedi, hein, où acte des gilets jaunes, pèsent désormais sur les décisions publiques, où le gouvernement retient sa main parce qu'il y a toujours cette menace?
Je ne pense pas du tout. Non, et je pense que d'ailleurs le mouvement a quand même énormément perdu de vitesse. Les gilets jaunes, ils peinent maintenant à mobiliser au-delà du petit cercle étroit de militants d'attaque. En gros, oui. Ça a quand même nettement dérivé vers l'extrême gauche. Je ne pense plus du tout que ce soit une préoccupation pour le gouvernement. Et en revanche, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, on a réglé cette question, on a répondu à cette problématique du pouvoir d'achat. On n'a pas répondu à d'autres problématiques qui ont fait que le mouvement des Gilets jaunes a agrégé des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, des gens du centre. On n'a pas répondu à toutes les thématiques. Et c'est pour ça que pour l'instant, ce mouvement est vraiment en perte de vitesse. Mais on reste très préoccupé par ces lignes de tension et ces fractures.
Ça, c'est clair.
Allez, on va prendre une petite minute pour voir ce qu'il y a à la une de vos titres respectifs. Un mot, Gilles Bornstein, peut-être, sur ce que nous propose ce soir France 2.
Oui, nouvelle émission politique, vous avez la parole, la rentrée de Xavier Bertrand, dont on dit qu'il pourrait être un des seuls capables de mettre en danger, de contrarier le duel attendu Emmanuel Macron-Marine Le Pen. C'est là sa rentrée politique sur France 2 avec notre émission.
Alors la une du point avec vous, Géraldine Vosnef.
Avec un sondage, une enquête de Jérôme Fourquet sur ce que pensent les musulmans en France, c'est un sondage assez choc. Donc je vous invite à lire.
À découvrir dans le point.
68% par exemple des musulmans français sont favorables au droit de porter le voile au lycée, au collège. On sent une vraie évolution depuis le dernier sondage qui est en 2009.
Et Pascal Jalabert, les journaux du groupe Ebra, qu'est-ce qu'ils nous proposent demain?
Oui, alors bon, l'actualité avec Mélenchon, mais aussi un dossier d'initiative sur ces enfants qui ont envie que les politiques agissent autrement et qui veulent changer le monde. Alors évidemment, il y a eu Greta Thunberg, mais demain, il y a des mobilisations partout en Europe de tous les enfants. Donc voilà, on va essayer de voir quel rapport ils ont avec la politique.
Merci à tous les quatre. Géraldine Vosnef, Véronique Rensoult, Pascal Jalabert et Gilles Bornstein. Pour ma part, je vous dis à demain pour une prochaine édition des Informés de France Info. Ce sera avec mon ami Olivier Delagarde. Bonne soirée.